19h sur France Culture, place maintenant à Soft Power, en direct jusqu'à 20h avec vous.
Frédéric bonsoir Olivia Gesbert.
Bonsoir. Pourquoi vous avez gardé notre secrétaire d'État?
Eh bien parce que...
Vous allez lui faire parler quoi, de numérique?
Non mais j'ai l'impression que oui, c'est... je ne sais pas, c'est la question. Non, j'étais très... mais on est très étonné quand même quand on, quand on regarde ce qu'a annoncé Barack Obama qui défend finalement en Angleterre et puis aujourd'hui en Allemagne par rapport au risque de sortie de l'Angleterre du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Il se met à les défendre, ce qui n'était pas du tout la ligne à l'époque de George Bush. Comment est-ce que vous voyez cette évolution?
Par rapport à quel sujet? Sur les négociations commerciales en particulier?
Absolument, oui.
Écoutez, le président des États-Unis...
Et par rapport à la sortie de
du Brexit, par rapport au Brexit.
Je pense qu'il y a une inquiétude sur le Brexit. Après, c'est le choix souverain, pour le coup, des citoyens britanniques qui voteront en juin. Ça, c'est pas à aucun pays, à mon avis, de leur donner des conseils. Vous savez, dans ce genre d'affaires...
Mais jusqu'à présent, les États-Unis avaient plutôt une tendance à ne pas être toujours favorable à l'Union
encore
européenne.
Une fois, c'est un choix souverain. Le vrai risque, avec la sortie potentielle du Royaume-Uni, c'est... l'effet d'entraînement que ça peut avoir sur d'autres États de l'Union et le début de détricotage du projet européen, ça faut prendre ça très au sérieux. En dynamique, c'est quand même un sujet qui est sur la table. Après, il faut préparer, quoi qu'il arrive, les lendemains du référendum britannique, quelle que soit la décision britannique, pour avoir des propositions extrêmement fortes de relance de l'Europe, en franco-allemand, mais aussi plus largement, parce que l'Europe ne peut plus continuer comme aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, on le voit, est à bout de souffle, et moi qui suis un Européen convaincu, je suis le premier à constater que, y compris par construction, si j'ose dire, que ça ne fonctionne plus, que ça ne peut plus continuer. On ne peut pas construire l'Europe sans les citoyens, on ne peut pas la construire sans rentrer dans les cœurs et les esprits des citoyens. C'est pour ça que je suis favorable, moi, à ce que l'Union européenne puisse porter des projets pour tous les jeunes Européens. Avant vos 20 ans, vous ayez la possibilité de vivre au moins 6 mois dans un autre pays de l'Union. Que vous soyez à la campagne, que vous soyez en banlieue, que vous soyez dans un milieu favorisé, défavorisé, ça ne peut pas être réservé à une petite élite. Et il reste quelques années pour créer des générations de jeunes Européens. Ça se fait par des projets concrets qui s'adressent vraiment à la vie quotidienne des gens et pas simplement par du tableau Excel.
Mathias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur, était invité en l'occurrence de dimanche et après. Merci Olivia Gesbert. Et un petit peu de soft power ce soir, vous voyez.
Oui.
Elle fait la transition.
Mais lancez le générique quand même.
Vous 19h30, jusqu'à 20h. Soft power.
Soft power. Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot.
Bonsoir à tous, donc nous sommes ensemble en ce dimanche 24 avril en direct jusqu'à 20h pour Soft Power, le magazine des industries créatives numériques de France Culture. Et ce soir, après ce passage de relais, passage d'antenne avec le secrétaire d'État au commerce extérieur, on va s'intéresser à quatre sujets bien différents, il faut le dire, mais malgré tout reliés entre eux. En ouverture de Soft Power et dans l'actualité, les coulisses et les secrets de TF1. Jamal Hani et Aude Dassonville publient une enquête approfondie sur TF1. Bonsoir Jamal Hani.
Bonsoir.
Votre livre, c'est presque une série télévisée, on pourrait dire, version House of Cards, davantage que plus belle la vie.
On a essayé de faire un gros suspense à la fin, mais on a moitié réussi.
En tout cas, c'est quand même un univers impitoyable. Ça nous rappelle Dallas, d'ailleurs, ce que vous racontez, que vous décrivez au cours des successions de différents patrons de TF1. On en parle tout à l'heure. Pourquoi avoir mené une telle enquête avec Aude Dassonville, Jamal Hani, pendant plusieurs années comme ça, hein? On n'avait pas tout dit de TF1, déjà.
Ça a été une des difficultés auxquelles on avait dû faire face, parce que TF1, c'est un média, évidemment, les plus suivis par toute la presse. Et donc, la difficulté était d'essayer de trouver des choses qui n'avaient pas été dites, originales, pertinentes. Et puis aussi, surtout en 96, il y a eu un bouquin définitif sur TF1 qui s'appelait TF1, un pouvoir.
La Pierre Péan.
Et Christophe Nic, voilà. Et donc, qui était un horizon indépassable, parce que c'était vraiment une investigation de très, très haut niveau.
Et donc, comme voilà. Une saison de télé, vous avez fait le tome 2, finalement, la saison 2.
Nous n'avons pas la prétention de nous comparer à ce livre-là.
On en parle dans Soft Power ce soir. Merci Charles Maleny, vous êtes avec nous tout au long de cette émission. Depuis plusieurs années, Franck Hannes disrupte, hein, vous aimez le mot, ça vous fait rire, la presse. Il a lancé SoFoot, SoFilm et même Pédale, un magazine consacré au cyclisme. Avec Society, c'est un mensuel décalé et joyeux qu'il propose. Comment est-ce qu'on définirait l'esprit de SoPress, du groupe?
L'esprit de SoPress, une bande de potes, basiquement.
Qui faisait du rock et maintenant fonde de la presse.
Qui continue à faire du rock. On a un label et on continue à faire des disques. Et voilà, c'est une bande de potes et qui font effectivement des magazines pour se faire plaisir. Et il se trouve qu'il y a des lecteurs à qui apparemment ça fait plaisir, donc on continue.
Society, SoPress, SoFilm, SoFoot. Franck Hannes est mon invité jusqu'à 20h dans Soft Power ce soir. En juillet prochain sera lancé Molotov TV, une plateforme de diffusion en ligne, une sorte de Netflix ou de Spotify français pour la télévision, comme ça a été beaucoup écrit. Pierre Lescure et Jean-David Blanc, notamment, en sont les cofondateurs. Je reçois ce soir Jean-David Blanc. Quel service offrirez-vous aux abonnés de Molotov et quelle plus-value par rapport à toutes les offres en replay qui existe déjà?
Vous savez, on dit souvent, quand on interroge les gens qui regardent la télé, qu'est-ce qu'il y a à la télé, souvent les gens disent, en fait, il n'y a rien à la télé. Et c'est entièrement faux. Il y a une offre.
Il y a trop de choses, finalement. Il y a une abondance.
Absolument, absolument. On dit souvent que la disponibilité ne fait pas l'accessibilité. Et en l'occurrence, c'est un peu ce qui se passe avec
la télévision. Donc Molotov, ça va trier, finalement.
Ça va mieux présenter, ça va faciliter l'accès.
Curater, on dit aussi en anglais.
Oui, curaté d'une certaine manière, mais sans pour autant éditorialiser, puisque les chaînes le font déjà très bien elles-mêmes. Donc c'est rendre justice à la télévision et donner plus facilement accès à l'ensemble des chaînes de télévision.
Toujours au sommaire de cette émission à 19h15, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web ce soir, les mêmes, avec vous Valérie Fernandez. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sciences économiques à Télécom Paris Tech et vous avez signé un article sur les mêmes numériques, on en parle tout à l'heure. On écoutera également ce soir Prince et Beyoncé, tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook en podcast et sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission, Jamal Eni est avec nous, auteur d'une enquête sur TF1, TF1 coulisses, secrets, guerres internes, livre publié, écrit avec Aude Dassonville, qui vient de sortir. 2 ans d'enquête, 150 interviews, vous dressez, Jamal Eni, un portrait sévère de TF1 et de ses dirigeants. Qu'avez-vous découvert au cours de cette enquête, chose auxquelles vous ne vous attendiez pas?
Ben, on a un peu découvert le déclin de l'Empire TF1. Si vous vous souvenez un peu du temps de Lelay et Moujotte, il y avait une toute puissance. Et le principal constat qu'on a fait, c'était qu'il y a eu une sorte de déclin ou de banalisation de TF1. À plusieurs points de vue, il y a évidemment une baisse de l'audience. Sur le terrain de l'info, où TF1 était tout puissant, maintenant TF1 est concurrencé par les chaînes d'info en continu. Mais TF1 a aussi contribué par elle-même à ce déclin, par exemple en diffusant beaucoup plus de séries américaines, des produits beaucoup plus banalisés et beaucoup moins identitaires que ce qu'il y avait avant. En termes politiques, c'est aussi devenu, après un soutien un peu affiché, plus ou moins affiché, on va dire, à Édouard Balladur ou plus récemment à Nicolas Sarkozy, c'est devenu beaucoup plus neutre politiquement. Du point de vue des stars aussi, ça s'est beaucoup banalisé. Les stars comme PPDA, Claire Chazal ont été remplacées par ce que Non Spoiling appelle des produits de la ferme.
Alors là, c'est tout ce que vous décrivez minutieusement, ce qui s'est appelé, non, incroyable, le plan fitness. C'était son nom, son vrai nom, en tout cas de code au début, et puis ça a filtré pour tout simplement couper dans les effectifs, en particulier les hauts salaires afin de faire baisser tout simplement le coût de la production de TF1. Et c'est ces stars-là qui en ont été les victimes, presque toutes d'ailleurs, pas à pas.
L'audience de TF1, elle est passée d'environ 40% lors de la privatisation il y a 30 ans à une vingtaine de pourcents aujourd'hui. Donc moins d'audience, ça veut dire moins de publicité. Donc évidemment, il a fallu se serrer la ceinture et évidemment, il a fallu faire des économies. La chaîne vivait sur un très grand train avant. Et c'était assez logique et normal que Nance Paulini ait fait un plan d'économie.
Un présentateur passe par exemple de 1 à 10 en perte, hein, de 10 à 1 plutôt, en termes de salaire entre PPDA et l'un de ses successeurs.
C'était un peu stratosphérique avant. Donc il y a un certain retour à la normale. Et on explique aussi que il y avait évidemment un côté nombre de zéros sur le chèque, mais aussi il y avait un côté personnel de Nance Paulini qui n'a jamais été très à l'aise avec les stars. Et il disait que les stars nuisent au collectif. Et il a toujours préféré, comme je disais, des produits de la ferme qui étaient des gens qui avaient fait toute leur carrière à TF1, qui étaient moins payés et qui finalement, il appliquait la philosophie qui est que la star, c'est le programme et pas le présentateur.
Alors, vous racontez cet épisode insensé, hein, d'une interview de 20 minutes de François Hollande, réalisée par Pierre Lescure, avec la complicité de Thomas Hollande, le fils du président de la République, que TF1 tente d'imposer aux 20h de Laurence Ferrari en 2012, hein, juste après la victoire de Hollande, comme pour se faire pardonner finalement d'avoir été tellement anti-Hollande. Et la séquence est coupée au dernier moment, fort heureusement en termes déontologiques.
Fort heureusement, Laurence Ferrari était quand même assez défavorable à ça. Et fort heureusement, François Hollande a accordé une interview à une journaliste de la rédaction.
Donc on a passé du frais plutôt qu'une interview mise en boîte. Ouais.
Mais il faut quand même dire que TF1, lors de la campagne de 2012, a été beaucoup moins sarkozyste que lors de la campagne de 2007. Ils ont été beaucoup plus équilibrés. Ils avaient donné des signaux à François Hollande disant qu'il serait beaucoup plus équilibré. Et Nicolas Sarkozy leur en a beaucoup voulu d'avoir été moins supportive en 2012.
Si on lit Marianne cette semaine, d'ailleurs la une de Marianne est consacrée aux médias, des médias sous influence, c'est le titre de Marianne ce week-end. Il y a une longue enquête qui parle, qui évoque longuement TF1, dans laquelle il est dit que autour du chef de l'État, donc de François Hollande, il n'y a plus de problème TF1, constate, dit-on, un proche du chef de l'État. Les mœurs sont changées par rapport à l'époque Mougeotte. TF1 était très militant, c'est moins le cas dans la nouvelle génération. TF1 est avant tout légitimiste à l'égard du pouvoir politique, et donc plus favorable finalement à celui qui l'exerce. Cela explique peut-être pourquoi l'Élysée a tenu particulièrement au passage en clair de LCI sur la TNT. C'est une forme de normalisation pour TF1 qui s'est peu à peu faite.
TF1, c'est les pragmatiques. Donc, être pragmatique, c'est être du côté du pouvoir, du côté du manche. Mais c'est vrai que dans le passé, on se souvient de Carrérou qui faisait des éditos pro Balladur. On se souvient du directeur de l'information ensuite qui s'appelait Robert Namias qui déclarait être un chiracien viscéral. On se souvient de Jean-Claude Dacier qui était le directeur de l'information après lui qui, dans son autobiographie, disait qu'il était proche de Sarkozy qui l'admirait. Et donc aujourd'hui, la directrice d'information, c'est Catherine Nel, qui est beaucoup moins marquée politiquement et sans doute beaucoup moins à droite que ces gens-là.
Il y a un nouveau PDG à ce groupe, qui vient d'ailleurs du groupe Accor. Il avait des liens avec Bouygues depuis longtemps, mais il prend les rênes de TF1. Gilles Pélisson, comment on pourrait définir la nouvelle ère, si tant est que ce en soit une, qui s'annonce avec lui? Comment vous la représenteriez?
Ben, les premières déclarations de M. Pélisson sont la volonté de continuer ce qui a été fait. Et c'est pas du
tout ce qui a été fait par Nance Paolini, vous voulez dire, en l'occurrence.
Absolument. Et il n'a pas du tout dit qu'il voulait faire une rupture ou une révolution, mais ça va être plutôt le changement dans la continuité. Et voilà. Il a été... Gilles Pélisson, Martin Bouygues le connaît bien. Il a dirigé pendant 4 ans et demi Bouygues Télécom. Et c'est essentiellement pour cette raison. C'est parce que Martin Bouygues tient toujours à ce que le patron de TF1 soit quelqu'un qui connaît très bien, qu'il a été choisi. Il avait choisi Nance Paolini, notamment parce que Nance Paolini était un proche de la famille Bouygues. C'est lui qui avait organisé les obsèques du père de Martin, Francis Bouygues.
Le journal du dimanche aujourd'hui décrit minutieusement comment Patrick Drahi est en train de marier SFR avec BFM, comment ces deux structures en apparence très éloignées, à savoir une chaîne de télévision, un média et un opérateur de téléphonie mobile, ce qui est d'ailleurs le cas aussi de TF1 et de Bouygues, vont être mêlés avec des chaînes SFR Sport, etc. Finalement, c'est une option qui n'a jamais vraiment été choisie par Bouygues.
Comme vous le dites, donc dans le groupe Bouygues, il y a un opérateur télécom et une chaîne de télévision depuis 20 ou 30 ans. Et les synergies ont été en effet tout à fait réduites entre les deux. Je vous signale que dans le groupe Vivendi, c'était aussi la même chose. Il y avait Canal Plus, SFR et des synergies quasiment marginales. Je ne sais pas franchement si c'est une question de choix de TF1 ou de Vivendi, ou c'est peut-être une question qu'on fantasme beaucoup sur une convergence qui, en pratique, ne donne pas beaucoup de débouchés concrets.
Donc peut-être pour Drahi, BFM TV et SFR sera purement sur le papier ?
Ah, mais Monsieur Drahi fait sûrement des choses très intelligentes.
Nous verrons. Une question des invités de cette émission. Quelqu'un veut réagir? Je suis sûr que Franck Hannes a... Ça vous inspire TF1? Je suis sûr que vous êtes de la génération TF1. Ou...
Non, je suis de la génération. Je suis pas une génération très télé en fait.
Un peu canal quand même.
Un peu canal. Ouais. Un peu canal.
Vous avez encore la casquette et la barbe. Ouais. Du geek et du hipster.
J'en ai pas vu beaucoup à Canal qui avait des casquettes et des barbes.
Le hipster,
j'y ai traîné un peu mes guêtres à une époque. J'en ai pas vu beaucoup. Mais non, justement, je sais pas si votre livre en parle, mais la façon dont les autres chaînes ont pu être bouleversées. Je pense à Canal notamment avec l'arrivée de Bolloré. Est-ce que ça joue sur le fonctionnement de TF1? Comment ils regardent ça?
Vous voulez parler? Alors, ce qui s'est passé lors de la privatisation et du rachat par Bouygues, il y a eu une normalisation de TF1, en effet, qui a été assez importante, mais ça remonte à 86, et c'est très bien expliqué dans TF1, un pouvoir de Pierre Péan, Christophe Nic. Ça peut peut-être rappeler ce que fait aujourd'hui Bolloré à Canal. Donc, ils sont arrivés dans une chaîne qui était, bon, une ancienne administration, qui en plus, si vous vous souvenez bien, après 81, la gauche avait mis un tas de journalistes de gauche dans toutes les chaînes publiques. Donc, les Bouygues rachètent ça. Et ils ont dû normaliser la chaîne et la voilà. Et alors Péan et Nic racontent très bien dans leur bouquin que pour un peu
par adoucir chez Fayard, voilà, TF1 un pouvoir
pour adoucir un peu les salariés, ils leur ont donné des salaires très élevés et ça a calmé beaucoup de velléités de rébellion.
Ça calme toujours.
Une question de Jean-David Blanc, cofondateur du site Molotov.tv.
Et comment vous voyez l'évolution d'un TF1 de 1986? Qui était quasiment tout seul, enfin ils étaient 5 ou 6 sur les antennes à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'autres médias audiovisuels. Et c'était en plus la chaîne qui s'allumait quand on allumait la télé, c'est la première. Et aujourd'hui, en 2016, donc 30 ans plus tard, avec plus de 200 chaînes accessibles dans les box, 26 si on n'a pas une box, et à ça s'additionne l'Internet et tous les services qui vont avec, de YouTube à Netflix, en passant même par le piratage. Comment vous voyez l'évolution d'un groupe comme celui-là?
Ben, face à la DSI, vous venez de décrire la concurrence qui explose. Donc, face à une concurrence qui explose, le déclin est inéluctable. Donc, TF1 ne pouvait que décliner. Et ce qu'ont fait ses patrons, c'est gérer le déclin et le freiner le plus possible. Et TF1, même avec 20% d'audience, reste quand même à des niveaux d'audience qui sont quand même... c'est quasi 20% d'audience, c'est deux fois plus que M6. Cet écart-là est quasi unique en Europe.
Avec du prime time, avec beaucoup de succès en prime time, presque toute l'année. Hein.
Et dans les autres pays européens, la chaîne principale en audience privée a des scores d'audience plutôt au mieux de 15% et un écart avec les suivants beaucoup plus réduit. Donc même si TF1 a décliné, c'était inéluctable et je pense que n'importe quel patron aurait abouti à peu près au même résultat, TF1 a quand même résisté beaucoup mieux par rapport aux comparables européens.
Ils auraient pu ne pas décliner, hein. S'ils avaient réussi LCI, s'ils avaient réussi, je veux dire, c'est qu'effectivement la multiplication des chaînes, ils auraient pu eux aussi profiter de cette multiplication et développer leur offre.
Ils ont 4 chaînes sur la TNT, ils ont HD1, ils ont TMC, ils ont NT1. Bon, évidemment, malheureusement, si vous additionnez ces 4 chaînes-là, ça fait quand même moins que la une avant l'arrivée de la TNT. Mais ils ont quand même une petite flottille qui leur permet de se protéger. Et non, mais comme Jean-David Blanc a expliqué, face à une explosion de la concurrence pareille, c'était forcé qu'ils déclinent. Hein. Vous ne pouvez pas faire autant d'audience à 5 chaînes qu'à 26.
Aude Dassonville et Jamal Lenny, vous avez écrit ensemble TF1 coulisses, secrets, guerres internes. Ça vient de paraître dans la collection Enquête de chez Flammarion. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons les mèmes. Ça s'écrit avec un accent grave, mème, sur le premier hec, et donc un est, avec vous, Valérie Fernandez.
Merci.
Vous êtes professeur de sciences économiques à Télécom Paris Tech et co-auteur de l'article « Les mèmes internet ont-ils un mode de propagation spécifique ?» Alors, dans un esprit très pédagogique, on va définir d'abord le terme, l'expliquer ensuite, en débattre enfin ensemble. Le mot est complexe à comprendre, notamment pour un Français, parce que c'est un faux ami, alors que c'est moins vrai, moins le cas dans d'autres langues. Ce terme même, qu'on peut employer très souvent en parlant de même Internet, par exemple, de même numérique, même quand on l'emploie, en l'occurrence avec un accent grave, il reste difficile à comprendre pour les Français. Comment est-ce que vous expliqueriez ce mot?
En fait, c'est un mot qui est inspiré du grec ancien.
du terme mimesis, imitation, et qui a été inventé par un biologiste et éthologiste spécialiste du comportement animal, Richard Dawkins, dans les années 70.
Dans son livre Le gène égoïste.
Exactement. Donc Dawkins postule que, comme tous les gènes qui transmettent des caractéristiques biologiques, il existe des éléments culturels qui peuvent se transmettre d'une personne à l'autre, et là encore, comme les gènes, peuvent être soumis à des mutations. Donc en fait, avec le développement du web, sa nature visuelle et sa dimension de média social, le mot de « même » a acquis un sens plus restreint dans le langage courant. En fait, il traduit l'idée d'un objet culturel, qui peut être une image, un texte, une vidéo, le plus souvent humoristique, qui se diffuse très vite et massivement au sein d'une communauté en ligne, chacun de ses membres, chacun des membres de cette communauté pouvant se réapproprier l'objet et en créer sa propre version.
Donc c'est un phénomène, un contenu qui va devenir viral sur Internet et qui ensuite, ce contenu évolue, se transforme, devient parodique, humoristique, de manière un peu décalée, on pourrait presque dire.
Oui, alors il y a toute une série de mèmes, de personnes, d'animaux, de chanteurs, de personnalités politiques. On peut peut-être en reprendre quelques-uns. Le chanteur coréen Psy et sa chanson Gangnam Style,
qui a été
une vidéo qui a atteint 1 milliard de vues sur YouTube grâce à ce clip un peu décalé et sans que personne ne comprenne vraiment les paroles.
Beaucoup imité par la suite, avec des photos de Psy qu'on retrouve dans toute forme de. Et il y a même eu cette semaine un gna style kind of, si on peut dire, avec la fameuse formule gna 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 pauvre con d'Alain Finkielkraut lors de la soirée Nuit debout, qui reprend la chanson de Psy.
On peut aussi citer le cas des mèmes autour de Marion Cotillard, qui ont fait l'objet de nombreuses parodies sur son jeu d'actrice et sa façon de mourir quelque peu critiquée. Dans le dernier volet de la trilogie de Batman. Il y a beaucoup de mèmes aussi autour des hommes politiques, François Hollande et la photo peu flatteuse qui avait été prise le jour de la rentrée scolaire de 2013 et qui avait été mise en ligne puis retirée par l'AFP.
Et François Hollande en France, en tout cas, c'est une victime des mèmes presque chaque...
Oui, il titille beaucoup l'imagination des internautes. Mais il y a aussi Nicolas Sarkozy, au travers d'une photo détournée de la conférence de Yalta, aux côtés de Joseph Staline, Churchill et Roosevelt, et moqué par là pour son opportunisme supposé à être sur la photo.
Alors ce qui est intéressant dans ces mèmes, c'est que très souvent ce sont des interviews, des formules, des textes qui vont être doublés d'images hors contexte et qui du coup les rendent totalement absurdes, marrants, parfois méchants. Les mèmes sont faits du coup vraiment pour être transformés, ne plus du tout être, sans jeu de mots, les mêmes.
Oui, mais je pense que dans cette société de la communication, on le disait à l'instant, une économie de l'attention devenue hyper compétitive, l'enjeu n'est plus d'être communicatif, n'est plus de dire, mais être performatif, de faire dire, faire, cliquer, liker, acheter, transformer et rendre un petit peu plus actif. Et cet espace de communication du web qui devient un espace de participation.
Alors dans votre article que vous avez coécrit avec Clément Renaud et Gilles Puel, Valérie Fernandez, vous attachez à un type de mème particulier puisque c'est la mode de propagation des mèmes, notamment dans l'internet chinois. Alors l'internet chinois, c'est pas comme chez nous. Il n'y a pas Google, c'est Baidu. Il n'y a pas YouTube, c'est Youku. Il n'y a pas Facebook, c'est Renren. Il n'y a pas Twitter, c'est les Weibo, etc. Et vous regardez comment les mèmes se diffusent, notamment sur ces réseaux sociaux chinois.
Effectivement, nous avons travaillé sur un corpus de données du site de service de microblogging Sina Weibo, puisque Twitter est interdit en Chine depuis 2009. Et on a récupéré plus de 200 millions de messages en travaillant sur une séquence de 52 semaines. Et en regardant un petit peu les modes de diffusion des différents types de mèmes, des mèmes humoristiques autour d'un poète chinois dont la calligraphie est très souvent détournée pour mettre en scène des situations du 21e siècle alors que lui-même est de la dynastie Tang. Des mèmes associés à l'émission The Voice of China, donc cette émission de télécrochet musical que nous connaissons bien en France. Des mèmes associés à une sextape, une vidéo qui mettait en scène les ébats sexuels d'un secrétaire du Parti communiste, ainsi un certain nombre de mèmes.
Ils se répandent de la même manière ou vous voyez des façons
de... Non, des structures de diffusion très différentes.
Ce que vous appelez le réplicateur culturel, donc c'est un mode viral finalement.
Tout à fait, le mode de viralité est très différent. En fait, ce qu'on a développé, c'est un outil de visualisation de la diffusion de ces mèmes autour de trois axes d'analyse, un champ sémantique, en essayant de voir quels sont les mots qui sont associés dans la viralité et dans les transformations qui s'opèrent dans la diffusion du même. Une structure qui nous permet d'analyser les modalités de conversation entre internautes, voir où sont les nœuds, où sont les liens de réseau, et en fait une structure géographique pour voir comment elle se diffuse, comment ces mèmes se diffusent dans l'espace de la Chine, dans l'espace très vaste de la Chine.
Alors sur l'internet chinois, un internet qui est évidemment un internet censuré, du coup il joue un peu le rôle, on pourrait presque dire, comme des rumeurs, d'une autre manière, dans un univers de communication et d'information qui est complètement contrôlé et censuré évidemment.
Oui, ces mèmes sont une opportunité pour les Chinois pour dialoguer entre eux au travers d'éléments très imagés qui sont moins censureux, quoique, puisqu'en fait on a observé sur le corpus de données que nous avons récupéré de Sina Weibo,
la police de l'Internet est capable de déjouer les mèmes.
Tout à fait. Et on retrouvait un certain nombre de diffusions, enfin de sites, de mèmes diffusés qui avaient été interrompus, dont la diffusion avait été interrompue par probablement la police de l'Internet chinois.
Pour revenir aux mèmes dans le monde occidental, si on peut dire, donc les mèmes, c'est des contenus qui font du buzz et qui vont être imités, transformés, changés au fur et à mesure de leur diffusion. Évidemment, comme souvent, le commerce s'en est saisi, le marketing et la publicité aussi. Comment est-ce que vous voyez cette évolution des mêmes, packagés et marketés, si on peut dire?
Comme un phénomène de marketing viral qui transforme un petit peu les utilisateurs en vendeurs. Un phénomène dont nous pensons qu'il est un petit peu inquiétant et dont il est important que les internautes se saisissent pour mieux être conscients de ceux qui sont acteurs et de ce mode de marketing viral.
Valérie Fernandez, vous êtes auteur de cet article. Les mèmes Internet ont-ils un mode de propagation spécifique? C'est publié dans la revue Réseau, numéro de février-mars 2016 aux éditions La Découverte. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux au mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. Vous êtes en Soft Power jusqu'à 20h en direct et nous ne pouvions pas ne pas rendre hommage dans cette émission à Prince, disparu jeudi. Magnifique couverture violette avec des larmes à la une du New Yorker ce week-end. Prince que l'on a évidemment beaucoup entendu ces derniers jours, et c'est pourquoi j'ai choisi ce soir un morceau rare qui évoquera pour les passionnés de théâtre quelques souvenirs. Réfléchissez, c'est bien d'ailleurs, je vous donnerai la réponse juste après. Le titre s'appelle God et il apparut initialement comme face B du 45 tours Purple Rain. Écoutez bien, c'est un morceau inouï, effrayant même.
Made a man, only he could.
On écoute ce titre God the Prince, une rareté musicale qui a été choisie à l'époque par Patrice Chéreau pour l'une des plus célèbres, sans doute, mises en scène de théâtre en France, son Hamlet au Festival d'Avignon en 1988, repris ensuite au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Chéreau a choisi ce titre pour recréer intégralement la célèbre pantomime d'Hamlet où ses amis, les comédiens, rejouent la scène de la mort du roi sous le regard attentif d'Hamlet qui espère piéger ainsi son oncle et sa mère et démasquer l'assassinat du roi et l'adultère de sa mère, la reine. Seul le titre God the Prince résonne à ce moment-là dans la pièce. Les acteurs miment et ne s'expriment plus. La scène est magnifique. La voix de Prince et ses cris comme venus d'un autre monde résonnent face aux contorsions du roi agonisant. Aujourd'hui, Patrice Chéreau et Prince sont morts, mais cette image, parmi d'autres, continuera longtemps à nous hanter. Vous êtes dans Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h en direct, le magazine des industries créatives numériques. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr ou sur iTunes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Bonsoir Franck Hannes.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du groupe SoPress qui édite notamment les magazines Society, SoFoot, SoFilm, Doolittle, Pédale, etc. C'est déjà une petite histoire. Vous avez 38 ans, vous avez lancé Sofa, c'était le magazine culturel en 1999. C'est un journal qui n'existe plus, mais qui avait été un peu la matrice de ce groupe-là. Le groupe SoPress donc édite ces différents journaux. Comment est-ce que vous voyez la spécificité, votre identité, l'ADN de SoPress?
C'est une question toujours délicate parce qu'en fait, un temps, j'ai conceptualisé une réponse un peu pourrie autour d'un truc qui était les 3 H, humour, humain, histoire, qui était vraiment de la post-rationalisation. Parce qu'en fait, en vrai, on n'a jamais eu de réflexion par rapport à ça entre nous. Ça a toujours été très instinctif.
C'est un peu comme on fait des startups aux États-Unis, on se lance et puis voilà, on cherche après le modèle économique.
Exactement, c'est un peu le même principe. Nous, on a commencé avec 450 €, donc effectivement très peu d'argent. Et puis, on a fait un magazine qui nous faisait marrer de faire et qui d'ailleurs était assez mauvais en vrai au départ, mais pas suffisamment pour que personne ne le lise. Donc du coup, on a progresser avec de plus en plus de lecteurs au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est toujours pas parfait, mais ça continue de progresser, en fait. Mais il n'y a pas de réflexion éditoriale ou quoi que ce soit, en fait. On se connaît tellement bien tous qu'on fait le canard qu'on a envie de faire. On se pose même pas trop de questions éditoriales, en vrai.
Pour survivre, la presse papier doit se réinventer, imaginer de nouveaux formats. C'est au fond ça, le projet de SoPress, pour parler du groupe dans son ensemble, pour l'instant.
Ben c'est pareil, je vais faire que des réponses nulles, mais en fait même pas en vrai. On n'a pas de prétention à ce niveau-là, ni on donne pas d'ailleurs de leçons sur la façon de faire des magazines. Je suis pas sûr que d'ailleurs notre méthode et notre façon de faire des magazines soit reproductible ailleurs.
Il en peut vrai. Pas y avoir de même.
Non,
ça
peut être difficile. Il se trouve que c'est assez organique et instinctif. On est les personnes qui étaient là au départ sont toujours là. D'autres se sont agrégées. Au départ, on était 5. Enfin, au départ, on était même moins que ça, et aujourd'hui, on est 70. Mais en fait, c'est nos potes, notre famille, les potes de nos potes, nos copines, les copines de nos copines. Et donc, c'est un truc très très familial.
Alors je disais, il peut pas y avoir de même de SoPress. Au fond, ce sont des mêmes. On part donc de Sofa qui a disparu depuis, et puis on va avoir en 2003 d'abord SoFoot, SoFilm, Pédale, Doolittle, Society. On retrouve le même gène initial, ouais. Le SoPress, comme si c'était du journalisme. Et puis vous allez le décliner dans différents secteurs, différents thèmes, sujets.
Ouais, il se trouve que ce que tout le monde louait, ça va être un peu prétentieux, mais à notre égard, était le fait qu'on racontait des histoires d'une manière un peu particulière et qui semblait plaire. Et alors on a après réfléchi là-dessus en se demandant qu'est-ce qui pouvait plaire dans la façon qu'on avait de raconter des histoires. On s'est aperçu que un truc qui plaisait, c'est qu'on n'avait pas de rapport de force avec le lecteur et en tout cas avec les gens.
Pas de rapport de force avec le lecteur, ça veut dire quoi, hein?
C'est-à-dire que par exemple, il y a peu de leçons de morale, il y a peu de moralisation dans nos récits, peu de rapports critiques. On fait pas de critique de disque, on fait pas de critique de film.
Donc,
un peu dans
donc
ce
n'est ni le Nouvel Obs ni les Inrecuptibles, pour le
voilà,
dire autrement.
Pour le dire autrement, mais ni les Cahiers du cinéma, ni enfin des exemples, il y en a 10 000. Et effectivement, il y a une presse qui s'est fondée autour de plusieurs axes en France. Il y a une presse d'opinion, il y a une presse de critique culturelle, et il y a une presse éventuellement de photo-reportage, de journalisme un peu à l'ancienne qui pouvait être Paris Match, etc. Nous, il se trouve qu'on avait des références qui étaient sans doute plus anglo-saxonnes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, s'il y avait Stéphane, il vous dirait que sa grande référence, c'est Rolling Stone de 1969.
On pourrait dire aussi,
très précis.
On pourrait dire aussi actuel à l'âge de
ouais,
Huffington
alors,
Post ou Mathieu Pigasse sans la banque.
Pourquoi pas ? Actuel, c'est marrant, c'est une référence qu'on nous a beaucoup donnée. Et j'ai lu mon premier actuel il n'y a pas très longtemps, finalement, au mois d'avril.
Une
2015.
Fois que l'histoire était finie, ouais.
Non, ouais, en avril 2015, en fait. Et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça vachement bien. Et effectivement, un point commun qu'il peut y avoir entre actuel et ce qu'on peut faire, c'est le plaisir de faire, de raconter nos histoires, en fait. Ils avaient un plaisir dingue à le faire et ça se sent. Et donc, du coup, je trouve qu'on prend du plaisir à le lire. Et je crois qu'il y a un peu de ça aussi chez nous, sans se mettre au niveau d'actuel.
Alors, on va peut-être parler des différents titres, commençant par Society, celui qui est aujourd'hui peut-être le plus connu, un quinzomadaire qui a mis à sa une Alain Juppé, François Hollande, très récemment Emmanuel Macron. Dans le numéro de cette semaine, Un homme contre le terrorisme, c'est un portrait de François Molins.
J'aime bien François Molins.
C'est écrit comme ça sur mon papier, c'est pourquoi. vous proposez en l'occurrence des interviews décalées. Comment est-ce que vous définiriez cette technique d'interview qui a fait un peu votre marque comme ça?
Je crois qu'en fait, on a commencé à être réputé pour un magazine de foot alors qu'on n'était pas journaliste sportif et qu'on avait du coup une distance naturelle par rapport au sujet. Quand on a fait un magazine de cinéma, il se trouve qu'on n'est pas critique de cinéma et qu'on n'a pas prétention à l'être. Donc on a un rapport très distant par rapport au sujet, donc une curiosité assez assez neuve.
C'est presque un prétexte pour parler de la société.
C'est un prétexte pour parler de la société et surtout on est passionné par ces matières, ces disciplines, mais on n'a pas on prétend pas être spécialiste. Donc et on fait pas partie du corporatisme de ces disciplines. Et donc quand on fait des interviews politiques, c'est pareil. Moi, je déjeune pas avec les hommes politiques. Je ne fais pas partie du Sérail. Je suis pas journaliste politique. Et donc, du coup, quand je leur pose des questions, des fois, ils doivent se dire, mais il est con celui-là. Tout le monde sait ça. Ben non, tout le monde sait ça dans leur petit milieu. Mais en fait, nous, on est plus proche de la masse que de l'institution et que du corporatisme.
Du coup, dans leur plan de com, lorsqu'ils veulent une interview décalée, hop, ils appuient sur le bouton Society, d'une certaine manière.
Ouais, souvent, ils appuient pas beaucoup, c'est nous qui allons les chercher, en fait, en vrai, on va pas se mentir.
Alors, quand on regarde les autres parties du journal, c'est plus inégal, là, finalement, un journal assez classique dans bien de ses aspects, même un peu potache par certaines de ses chroniques, voire adolescent, apprendre l'anglais dans le numéro de ce mois-ci, ou ah bah voilà, sur les community managers, c'est franchement un truc de fanzine. Donc, comme si vous n'aviez pas encore tout à fait achevé votre mue adolescente.
On ne l'achèvera jamais, je crois. Enfin, en tout cas, tant que je porterai une casquette. Oui, effectivement, c'est très fanzinal. Mais on aime bien ce côté-là, en fait. On est très ados. Hein. On continue à faire de la musique, on fait des disques, on joue dans des groupes.
Oui, c'est d'ailleurs une partie du modèle économique.
On fait du rock indé.
Vous produisez des vidéos, de la musique, vous avez une boîte de production de films. Ça, c'est aussi le modèle économique de la presse. Il doit s'appuyer sur d'autres aspects.
Non, je crois pas. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas le modèle économique. Il se trouve qu'on aime bien que chaque entité soit rentable, en fait. Donc, les magazines sont rentables. Le seul truc qui est pas rentable du tout chez nous, c'est la musique. La maison de disques, parce que pour le coup, mon train électrique.
Mais votre train électrique.
Ouais, c'est
jouer d'enfant, dans un truc, ça que vous voulez dire.
Voilà, dans un truc d'adolescence, c'est mon truc très régressif, on va dire. Mais il se trouve que on aime bien faire des films, on aime bien réaliser des clips, on aime bien faire des disques, on aime bien écrire des magazines. Donc, comme on peut le faire, on le fait, en fait.
Une question à Jean-David Blanc, fondateur de Molotov.tv.
En lisant Society, que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, comme vous le disiez très bien, on a l'impression, pour une fois, et c'est pas souvent le cas, que le journaliste ne fait pas partie du milieu dont il parle, mais plutôt est à la place de celui qui lit, en fait, qui s'interroge légitimement, qui a envie de savoir, envie de connaître, en toute honnêteté, en réalité. Je m'interroge, moi, sur ce qui vous a poussé à le créer. J'essaie d'imaginer le contexte des news magazines qui existaient avant que vous le créiez, et ce qui vous a donné envie de le faire, en fait. C'était le sens de ma question, en comparant ce qui existait, ou ce qui existe toujours d'ailleurs, au moment où vous l'avez créé, par rapport à ce que vous avez créé.
C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, on se retrouvait pas tellement dans la presse qui existait déjà, en fait. C'est-à-dire que on n'aime pas trop qu'on nous donne des leçons, on n'aime pas trop qu'on nous force à avoir des avis, ou qu'on nous dise ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. On a tendance à penser qu'on est capable nous-mêmes de nous rendre compte si c'est bien ou si c'est pas bien, qu'on préfère qu'on nous présente les choses et qu'on nous parle comme un petit frère ou un pote. Enfin, y a un peu ce truc-là et je trouve que ça manquait un peu de transmission, en règle générale.
Puis ça, c'est très américain aussi, en tout cas la grande presse de type l'enquête, de ce qu'on appelle la narrative non-fiction, le New Yorker, même pour une part, le New York Times Magazine, par exemple.
Ouais, qui nous donne des leçons à chaque fois.
Semaine.
Hein. Ouais, on va pas se mentir. Mais voilà, donc on retrouvait pas ce qu'on avait envie de faire, nous. Il se trouve qu'après, on a mis du temps à lancer un magazine de société parce que ça coûte beaucoup d'argent et qu'on n'en avait pas beaucoup. Donc, il a fallu attendre un petit peu. On a mis nos noisettes de côté petit à petit. Et puis, un jour, on a estimé qu'on avait suffisamment de noisettes pour aller au feu. Et on a dit, OK,
Dans SoFoot, on a des enquêtes, donc on l'a dit, décalées sur le foot, comme si le foot permettait de comprendre la société. Une enquête, par exemple, sur le foot et le FN, dans les villes FN, les conversions à l'islam des joueurs de foot. Un article qui a suscité pas mal de débats, les footballeurs ruinés, etc. Encore une fois, c'est le foot qui parle pratiquement de tout sauf du foot.
Ouais, parce qu'on a ce rapport-là, nous, au football, on est passionné de foot. On n'est pas journaliste sportif. Moi, je regarde assez peu les matchs, par exemple, à télé. Alors, certains les regardent beaucoup plus, notamment ceux qui sont plus sur le site de SoFoot, où là, on a un traitement plus proche de l'actualité.
Un site qui, pour le coup, marche bien, ce qui n'est pas le cas de Society, puisqu'il reste un peu comme ça.
Le site de Society, il n'a aucun intérêt.
Aucun intérêt, mais vous allez le développer.
Ouais,
il y a un projet.
2017. C'était 2018 au départ, mais finalement, ça va être un peu avancé, parce qu'on gagne un peu plus d'argent que prévu, donc... On va pouvoir attaquer le site internet un peu plus tôt.
Une question de Jamal Eni.
Oui, alors dans Society, à l'été dernier, vous avez été un des premiers à sortir une enquête sur la reprise en main de Canal+ par Vincent Bolloré. Et notamment, vous aviez à cette époque-là parlé le premier du documentaire sur le Crédit Mutuel qui avait été déprogrammé par Canal+. Et quelques semaines plus tard, en septembre, le 24 septembre, Vincent Bolloré était auditionné au CSA.
Mais ils ont rien sifflé.
Et devait répondre donc des accusations de censure, etc. Et il a dit que tout ça, c'était de la fabulation et que tout ça était une campagne menée par Society et par Ronald Van Kim, qui est
un producteur télé influent, etc.
Qui venait d'être viré à coup de pied aux fesses de Canal+ par Vincent Bolloré et qui était un petit actionnaire. Il avait 2%, je crois, à l'époque de Society. Alors, vous avez le micro pour répondre à Vincent Bolloré.
Vincent, rentre à la maison, s'il te plaît. Tu dis des bêtises. Que dire. Effectivement, je crois qu'il y a un conflit personnel entre Vincent Bolloré et Renaud Levent-Kim. Il se trouve que Renaud était actionnaire de Society. Il a quitté l'actionnariat il y a peu. En partie à cause essentiellement à cause des relations conflictuelles avec Vincent Bolloré. Renault, je pense que si on avait voulu protéger notre actionnaire, on n'aurait surtout pas fait ce papier, parce que on a fait que lui attirer encore plus d'emmerdes. Donc penser que Renault aurait téléguidé ou aurait comploté avec moi pour déstabiliser Vincent Bolloré, c'est à la fois me donner beaucoup trop d'importance, puisqu'en fait, en plus, ce qu'il disait, c'est que j'en crois les retranscriptions.
On ne rentre pas dans les détails.
Bref, en tout cas, il n'y a pas de complot anti-Vincent Bolloré.
Il n'y a pas de complot.
Il se trouve qu'on fait un papier, qu'on enquête et qu'on se rend compte qu'il a censuré un documentaire. Donc, comme tout bon journaliste, on le dit.
Valérie Fernandez, pour terminer, une question.
À travers vos articles, on sent cette mise à distance très agréable des faits de société. En même temps, on sent une sorte d'homophilie de pensée, un mode de pensée assez mimétique. Est-ce qu'il y a une contradiction interne au sein de votre propre groupe?
Ça, c'est une question universitaire.
Est-ce qu'il y a une contradiction interne? C'est-à-dire quand vous dites...
Est-ce qu'il y a des modes de pensée divergents lorsque vous abordez un sujet?
Ouais, ça peut arriver. Ça doit arriver, j'imagine. J'ai pas d'exemple comme ça. C'est assez... en fait, pas beaucoup, en vrai. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. C'est assez... on se pose pas trop la question, en fait. Il y a des fois des sujets où je vais confier le sujet à un journaliste. Je vais pas forcément être complètement d'accord avec lui, mais comme c'est pas un truc d'opinion, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'il a une façon de présenter le truc. Si j'estime qu'à un moment donné, il fait pas bien son travail, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez à distance avec son sujet, je vais lui dire, écoute, mets un peu de distance parce que je trouve que tu fais trop la promo d'un tel, ou au contraire, tu sacques trop et qu'on n'est pas là pour saquer les gens ni pour en faire leur promotion bêtement. Donc ça peut arriver des fois que je demande aux journalistes de rebosser un peu, mais...
Franck Hannes est le fondateur du groupe Sopress. C'est toujours le FC Nantes, votre...
Ouais, enfin, je suis plus du tout depuis que Valdemar Quittard a pris le club et qu'on nous a... Ça reste une référence. Mm-hmm. J'avais voulu racheter, on n'a pas réussi.
Patron de Society, SoFoot, SoFilm, Doolittle, Pédale, etc. Quand est-ce que vous lancez SoRadio pour concurrencer France Culture?
Non, j'adore la radio, ça aurait été super, mais c'est compliqué. J'ai commencé par ça, le premier truc que j'ai monté, c'est une radio, allez, ça, qui existe toujours. Ça s'appelle Rêve FM, dans le Val d'Oise.
Peut-être reconnu le générique du nouveau film album de Beyoncé, Lemonade, film qui était diffusé cette nuit sur la chaîne câblée américaine HBO, parce que c'est la version instrumentale du single Formation, dont Beyoncé avait dévoilé le clip il y a déjà quelques semaines. L'album a également été mis en ligne hier soir sur la plateforme Tidal. Un film complet accompagne donc cette fois-ci l'apparition des titres dans la lignée du premier single, très politique. La chanteuse s'y met en scène au cœur de la Nouvelle-Orléans et tient des propos engagés sur la condition des femmes noires en Amérique, citant Malcolm X et la poétesse anglo-somalienne Warsan Shire. A noter également l'apparition de la joueuse de tennis Serena Williams, mais surtout celle des mères de Trayvon Martin et Michael Brown, les deux adolescents noirs abattus par un agent de sécurité et un policier en 2012 et 2014. C'est à partir de ces crimes d'ailleurs qu'est né le nouveau mouvement Black Lives Matter, qui est déterminant actuellement dans la campagne présidentielle américaine et a contribué à l'affaiblissement de Bernie Sanders, qui est en pointe sur le social mais pas sur la question noir, contrairement à Hillary Clinton. Autre point intéressant de ce morceau, du point de vue de l'industrie de la musique, Beyoncé a choisi de lancer cet album uniquement sur Tidal, une sorte de Spotify aux États-Unis qui appartient notamment à son époux Jay-Z. Tidal vise à mieux rémunérer les artistes et émerge donc comme un concurrent possible de Pandora, Deezer ou Spotify. Du coup, Beyoncé a veillé à ce que son album ne soit disponible sur aucune plateforme autre que Tidal, pas même sur iTunes. On observe ici la mise en place d'une véritable chronologie des médias pour la musique, un peu comme dans le domaine du cinéma. Un morceau sort plateforme après plateforme, après des fenêtres économiques distinctes. C'est toute une nouvelle économie de l'industrie musicale qui peut-être est en train de se mettre en place.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Dernier invité ce soir de cette émission, Jean-David Blanc, cofondateur du site Molotov TV. Rebonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Molotov TV devrait sortir en juillet, c'est ça? C'est ce que vous annoncez?
On annonce le 11 juillet, oui.
Parce que c'était annoncé déjà pour l'année dernière, puis c'était un peu reporté.
On a annoncé la création du projet l'année dernière en juin, et puis un peu plus de détails en octobre sur de quoi il s'agissait, avec qui et quel partenaire.
Alors de quoi s'agit-il justement? Une plateforme, on pourrait dire, de télévision en ligne?
C'est ça, en fait, on a tous fait le constat que la zapette, qui est l'interface, ce qu'on appelle l'interface, c'est-à-dire le moyen d'accéder à la télévision...
Donc le zapping, tout simplement, face voilà. À cette abondance, ça marche plus.
Exactement. Le zapping, c'était bien à 3 chaînes, 6 chaînes, 12 encore, mais 200, c'est devenu totalement impossible. D'autant qu'en plus, maintenant, on a d'autres habitudes. On a pris d'autres habitudes dans l'accès à l'information.
Le non-linéaire, le replay, etc.
Le non-linéaire, le replay, aussi YouTube, Netflix, Spotify, vous les avez cités, etc. Donc, et la télévision, la distribution de la télévision ne s'est pas adaptée à ces nouvelles habitudes.
Alors vous allez proposer un outil qui va précisément répondre à ces problèmes. Comment ça va marcher?
Alors on a imaginé une interface. Les tests qu'on fait en ce moment montrent qu'on y arrive, qui montre mieux la télévision de ce qu'elle est de l'offre de télévision visuellement et donne accès plus facilement dans l'espace et dans le temps aux chaînes de télévision et aux programmes qu'elles proposent.
Donc alors ça sortira en juillet, ça sera quoi? Un agrégateur, vous diriez?
Comme toute plateforme de distribution, une plateforme de distribution, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît quand on a une box, donc une free box, une orange box, qui agrège effectivement, qui rassemble l'ensemble des chaînes et qui permettent d'accéder les unes aux autres. Et bien, ce que va faire Molotov, c'est ça, c'est l'agrégation de l'ensemble des chaînes et de leurs replays, mais pas seulement, mais qui les présente de manière complètement nouvelle, non seulement nouvelle dans leur présentation, mais aussi nouvelle dans leur accès, puisqu'on peut y accéder avec son propre appareil, que ce soit un smartphone,
une tablette, une
télé connectée, un ordinateur, etc.
Comment est-ce que vous allez pouvoir exister dans un marché où les offres de télévision, y compris celles de rattrapage et de replay, sont déjà innombrables et gratuites?
Elles sont innombrables, pléthoriques et gratuites, mais pas forcément au mieux de ce qu'on pourrait imaginer.
Vous voulez dire que chacun y propose ses contenus et non pas des contenus globaux, ce qui va être votre cas d'une certaine manière?
Ça, mais c'est surtout qu'en fait, si vous interrogez les gens autour de vous, il y a beaucoup de gens qui disent « moi je regarde plus la télé ». On parlait de Sceaux tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que vous ne regardiez plus la télé et vous n'êtes même pas de cette génération télé. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de cette génération de télé? Ça veut dire pas de cette génération qui ne supporte pas le rendez-vous forcé, qui ne supporte pas le zapping et qui est devant son smartphone, sa tablette ou son ordinateur et qui veut, lui, aller chercher cette information.
Mais justement, ça existe, ces chaînes en replay existent partout. Donc en quoi votre projet sera différent?
Elles existent dans les box. Elles existent sur certaines
apps. Sur Internet,
elles existent. Sur les apps des chaînes qui sont en silo. C'est-à-dire que vous avez l'app de TF1, c'est très bien. Vous avez l'app de France Télévisions.
Donc vous proposerez toutes les chaînes à la fois.
Vous avez 200 chaînes de télévision disponibles avec des chaînes qui sont d'une qualité absolument incroyable et qui ne sont pas mises en avant.
Alors ce qui va être important, c'est quoi du coup? L'algorithme, la recommandation, c'est ça qui va être la clé de votre projet?
Alors non, justement, on est.
Vous êtes anti-algorithme?
On est anti-algorithme. Alors je ne pourrais pas dire qu'on est anti parce que c'est idiot de dire anti ou pour, etc. Le modèle de Molotov, c'est de s'appuyer sur l'organisation des programmes qui sont pensés par les chaînes. Si une chaîne décide de diffuser un programme tel jour à telle heure, c'est parce qu'elle a longuement réfléchi à cette raison-là. Si par exemple, comme c'est le cas, il y a un artiste comme Prince qui décède, les chaînes vont bouleverser leur grille de programme, les chaînes culturelles vont diffuser des documentaires, d'autres vont diffuser des concerts, etc. Donc je pense que l'intelligence se situe chez les chaînes, au niveau des gens qui font l'éditorialisation.
Donc vous allez faire comme elles?
On va s'appuyer sur leur travail. Si vous voulez, à quoi sert un moteur de recommandation? Il faut essayer de comprendre la raison de ça. En fait, les sites ou les services qui proposent un moteur de recommandation, c'est qu'en fait, elles proposent des catalogues. Des catalogues de contenus qui sont en fait morts. Un catalogue, c'est quoi? C'est comme, je le dis souvent cet exemple, c'est comme, imaginons un contenu, un programme, quel qu'il soit, comme un poisson dans un lac. Et puis, ces poissons tournent dans ce même lac et ils sont peu ou pas renouvelés. De temps en temps, le propriétaire du catalogue met un saut de poissons nouveaux ou frais dans le lac et puis vous avez d'un seul coup une nouvelle série qui apparaît dans le catalogue.
Donc vous faites une sorte de soupe de poissons, en fait.
Non, justement.
Si j'ai bien compris votre métaphore.
Vous
savez, quand on a la soupe de poissons, c'est très très compliqué de revenir au poisson.
Quand vous êtes téléspectateur...
Enfin, c'est un proverbe polonais, je vous signale.
Quand vous êtes téléspectateur et que vous voulez naviguer, essayer de trouver le bon poisson, et ben la seule façon qu'a un système de catalogue de vous proposer le poisson qui vous correspond, c'est d'imaginer un moteur de recommandation. C'est super, mais le moteur de recommandation, il change pas d'un jour à l'autre. La télévision, c'est pas ça, c'est comme une rivière avec des poissons qui passent devant vous, qui sont programmés par un directeur d'antenne, et vous êtes devant, et vous allez attraper le poisson au moment où il passe devant.
Jean-David Blanc, vous êtes cofondateur de Molotov.tv, vous avez d'ailleurs été un des fondateurs d'Allociné, et vous avez rassemblé des gros poissons, c'est le cas de le dire, Pierre Lescure, Jean-Marc Daniel de TF1, d'autres, pour lancer ce projet Molotov qui sortira cet été. Il y a des concurrents, il y a par exemple Netflix, on a dit que vous seriez une sorte de Netflix de la télévision, mais Netflix c'est 600 ingénieurs à Los Gatos, c'est 81 millions d'utilisateurs aujourd'hui à travers le monde, 10 milliards de capital. Comment est-ce qu'on est capable d'être un concurrent efficace dans un univers où, d'une part, la fragmentation est incroyable et les géants du net, notamment Netflix, sont super puissants?
Netflix est en réalité une grosse chaîne de télévision disponible sur Internet. Ce que nous faisons, nous, n'a rien à voir. On permet, sous une forme netflixienne, c'est-à-dire celle que les millennials, ce qu'on appelle, ou c'est
les jeunes,
les plus connectés, ont envie d'avoir dans le mode d'accès, on offre l'accès à la télévision et aux chaînes de télévision. Donc imaginez un Netflix, mais avec le contenu de la télévision.
C'est aussi ça Netflix, à travers les séries télévisées, à travers tout un tas de programmes, pour une part.
C'est une chaîne avec un catalogue qui a besoin d'un moteur de recommandation.
Une question de Franck Hannes.
Comment ça se passe avec les chaînes de télévision, du coup? Quelles sont vos relations?
La négociation des droits.
Ils se prêtent volontiers à vous laisser leur catalogue accessible.
Alors, il faut comprendre que les chaînes de télévision, on en parlait tout à l'heure, ce sont des animaux qui se cherchent, qui sont parfois en déclin, notamment pour les plus grandes, et qui s'interrogent sur leur avenir. Quand on va les voir avec une nouvelle proposition, en fait, d'abord, il faut comprendre qu'on fait un métier qui est en fait assez classique. On fait un métier de distributeur. Un peu comme le font, encore une fois, Orange, Free et d'autres. Et donc, quand on va les voir avec une proposition classique de distribution, ils nous disent « c'est très bien, mais comment vous allez nous distribuer ?» Et c'est ça qui crée l'originalité de Molotov, c'est que, justement, dans la façon dont on distribue, tout en respectant l'écosystème de la distribution, on espère apporter une disruption pour plaire à ceux qui ne veulent plus consommer la télé comme avant.
Jean Maleni, question très courte.
Donc si j'ai bien compris, votre cible c'est notamment les millennials, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de poste de télévision chez eux, qui ne la gardent plus, qui n'en regardent plus de programme.
Les millennials jusqu'à Franck Hannes, c'est à peu près ça le créneau d'âge. Ça fait beaucoup de monde quand même.
Et qui n'ont plus de programme télé et qui ne regardent plus la télévision de manière traditionnelle et que vous voulez essayer de ramener devant les, de capter, de réconcilier avec les programmes qui passent à la télé.
Ce que nous pensons, c'est que il y a à la télévision des programmes exceptionnels et que personne n'a idée de la richesse de ce qui est disponible à la télévision. Et ce qu'on espère faire avec Molotov, c'est montrer la richesse des programmes disponibles à la télévision. Donc de les rendre accessibles.
On peut aller sur votre site, on s'abonne et comme ça on sera privilégié, un premium, un Millennium Premium qui pourra avoir accès à ça dès que ça sera mis en ligne, c'est ça?
Sur molotov.tv.
Absolument.
I don't wanna be alone. Don't wanna be down. Don't wanna be found until the morning. Wanna look at those stars. Wanna rock those clouds. Gonna live this night and feel.
Voilà, on se quitte avec Grand Voyage, un groupe français dont ce titre, Feel the World, figure sur leur premier LP, en attendant peut-être un premier album prochainement. On en reste là pour ce soir. Vous pouvez retrouver toutes les sources de cette émission, articles de référence, liens internet, programmation musicale et livres, consulter tout ça sur la page web de cette émission ainsi que sur Twitter au mot-clé Soft Power. Merci infiniment à Jean-David Blanc, fondateur du site molotov.tv, Jean Maleni, co-auteur avec Aude Dassonville d'une enquête sur TF1, baptisée d'ailleurs TF1, Franck Hannes, fondateur du groupe Sopress, et Valérie Fernandez, professeur à Télécom Paris Tech. Dimanche prochain, nous parlerons des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, que nous soumettrons à la critique. Les GAFA vont avoir peur. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, assistée de David Lavaux. Pierrick Monsigny était à la régie. Olivier Guérin à la réalisation. Soft Power, c'est tous les dimanches 19h-20h en direct sur France Culture. Demain, dans les matins de France Culture, Guillaume Erner reçoit l'économiste Eli Cohen qui évoquera EDF et la transition énergétique. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.